Virginie Lagagnère expose actuellement à Optica l'aboutissement d'une résidence au Studio de Québec à Rome. Une exposition titrée « Le Prisme » qui explore l'évolution d'architecture hein, et leur fonction. Des architectures qui ont marqué l'histoire et l'imaginaire et qui continuent de se transformer. Des thématiques qui affectionnent particulièrement Virginie Lagagnère qui est à mes côtés. Bienvenue.
Merci.
Alors, Virginie Lagagnère, si avant qu'on parle de l'exposition qui est en cours en ce moment, on s'entretient entouré d'œuvres, notamment d'une œuvre vidéo accompagnée d'une musique très envoûtante, si on parlait un petit peu des thématiques qui vous inspirent de longue date, hein, ça fait des années que vous avez vraiment une inspiration particulière, entre autres pour l'architecture.
Oui, c'est ça. En fait, mon travail se penche spécialement sur l'environnement construit, les territoires urbains aussi, un peu comme des conteneurs d'utopie sociale, architecturale. Donc ça, je dirais que c'est pas mal une ligne directrice qui traverse l'ensemble de mes recherches. Puis, la modalité de résidence artistique, les séjours à l'étranger, ça fait aussi partie de ma méthodologie de travail. Donc, parce que mon travail aussi est surtout ancré dans des réalités, comme je l'ai mentionné, architecturales, mais aussi sociales, des contextes liés à des lieux vraiment précis, des situations très, très précises, comme l'exposition ici chez Optica en témoigne.
Oui, oui, justement. Alors, c'est l'aboutissement d'une résidence ici qu'on peut voir ici à Optica, mais c'est une résidence à laquelle vous rêviez de longue date, que vous avez pu finalement la réaliser. Si vous me présentez cette résidence et son, je pense, certains bâtiments vous ont particulièrement inspiré.
Oui, justement, tout à fait. Ça faisait quand même quelques années que je développais une recherche sur les colonies marines, donc le phénomène des colonies marines sur le bord du littoral italien, autant sur la côte est que sur la côte ouest de l'Italie. Les colonies marines, vraiment grosso modo, là, pour faire une phrase bien courte, pour résumer, les colonies marines, ce sont des établissements de soins de santé pour enfants qui ont été développés dans une première période pour, si on veut, c'était des établissements curatifs pour la santé des enfants, ceux qui avaient un problème avec la tuberculose. Donc ça, c'était la première...
On parlait des années 1800.
Oui, tout à fait.
Début 1900.
Au 19e siècle. Oui. Et ensuite, avec l'ère fasciste, les colonies marines se sont développées plutôt comme des temples d'endoctrinement fasciste, donc d'endoctrinement politique pour les enfants. Là où le corps, la santé physique était déployée, donc ce qui est pas négatif en soi, on s'entend, mais du même coup, il y avait aussi, c'était vraiment développé sous un fond un peu militaire, tout ça. Donc, les enfants étaient divisés en troupes.
Bien sûr, sous l'ère Mussolini. Hein?
Tout à fait, oui. C'est bon de le spécifier. Entre les deux guerres, là, on se situe vraiment entre les deux guerres dans les années 20-30. Et ça, c'est la deuxième période du développement des colonies marines. Et ensuite, il y a une troisième période autour des années 60 où les colonies marines sont devenues un peu plus comme nos camps de vacances aujourd'hui au Québec ou au Canada. Donc, des camps plus pédagogiques, axés sur le développement de l'enfant, sur les apprentissages de l'enfant à travers ses propres expériences. Donc, c'est plutôt... des apprentissages, la relation maître-élève, comme on pouvait voir dans la deuxième phase sous l'ère fasciste, n'était plus à propos. Donc, c'était vraiment plutôt horizontal. L'enfant apprenait par lui-même et le maître, si on veut, le pédagogue était là pour le soutenir dans ses propres expériences.
Alors, vous parlez vraiment de l'approche pédagogique qui était mise de l'avant durant les années 60 et 70, bien sûr.
Tout à fait. Donc, c'est tout le temps bien de... contextualiser aussi l'approche selon l'année, oui.
Alors maintenant, l'enfant n'était plus soumis à la masse ou à la culture de la masse, mais maintenant, était au cœur, l'enfant était placé au cœur de la démarche pédagogique. Là, c'est une transformation radicale. Les années 60-70, si on compare à l'histoire précédente de ces bâtiments, de notre colonie de vacances balnéaire.
Oui, tout à fait, parce que avec l'ère fasciste, les architectures aussi étaient... si on veut, conteneurs de politique symbolique. Donc, ils étaient construits de façon à faire passer aussi un message.
Oui, une propagande assez importante.
Tout à fait. Donc, tu sais, c'est quelque chose qu'on voit un peu moins aujourd'hui, l'architecture aussi symbolique, aussi ancrée politiquement. Donc, c'est quelque chose aussi qui m'a interpellée dans le projet. Puis, j'ai voulu justement montrer les différentes phases des colonies marines, voir son développement. Puis, qui est aussi dans une approche qui n'est pas nécessairement chronologique. Donc, à travers ça, il y a des expériences personnelles que moi, j'ai vécues. Puis là, je m'adresse surtout par rapport à la vidéo, donc qui est présentée aussi dans la galerie. Donc,
la vidéo très fascinante, je dirais, voire hypnotisante. Et d'ailleurs, on entend en ce moment même la musique envoûtante. Vraiment. Moi, je suis restée bon moment à regarder cette vidéo-là. Et vraiment.
En particulier, j'ai travaillé avec deux colonies marines différentes. La première qui s'appelle la colonie marine du 28 octobre. Là. J'essaie de traduire dans ma tête en français parce que c'est du 28 octobre en italien. Donc, du 28 octobre, qui se situe à Catolica en Italie sur la côte adriatique. Puis une autre qui est la Rosa Maltoni Mussolini en l'honneur de la mère de Mussolini. Et ces deux colonies, pourquoi j'ai choisi ces deux colonies marines, c'est spécialement parce qu'ils sont aujourd'hui encore activés, mais vers de nouvelles fonctions. Il y en a une qui est transformée en aquarium, en lieu de recherche sur les espèces, les mammifères marins. Donc, c'est possible de visiter cette colonie-là. Et l'autre, la Rosa Maltoni Mussolini, c'est maintenant rendu un complexe hôtelier et de condominium. Donc, moi, j'ai eu la chance de dormir dans cette colonie marine.
Alors, mon Dieu, ça doit être comme un aspect important, une exploration importante que de pouvoir séjourner le temps suffisant pour s'imprégner de l'ambiance du bâtiment. Alors, quelle chance!
Oui, tout à fait, surtout avec ma méthodologie, ma manière de travailler.
Très immersive, peut-être?
Oui, aussi, et surtout du fait que, comme le principal élément de mon travail, c'est les relevés photographiques, les relevés vidéographiques et les enregistrements sonores, je savais pas trop à quoi m'attendre en me déplaçant sur les lieux, et des fois, ce sont des lieux qui sont pas nécessairement toujours facilement accessibles. C'est pas nécessairement près des villes, donc cet aspect-là de pouvoir savoir à l'avance qu'il est possible de dormir là et de rester pendant plusieurs jours pour filmer. Il y avait un côté aussi rassurant, car je savais que je pouvais mener à terme mon travail, tandis qu'il y a d'autres colonies que j'ai visitées où c'était même interdit l'accès, donc il y avait un aspect même, j'oserais dire, illégal de traverser les barrières pour avoir accès, pour pouvoir filmer ou prendre des photos. Donc, il y a toujours ce risque aussi avec le travail de terrain. On ne sait jamais à quoi ça va.
D'avoir composé avec des règles très restrictives.
Tout à fait. Oui, donc, ça fait partie un peu du jeu. Donc, j'aurais pu revenir avec très peu d'images, mais finalement, j'ai réussi à revenir au Québec avec une somme assez substantielle d'images.
Alors, vous parliez vraiment, vous venez de nous décrire un peu la méthode, votre méthodologie, hein, qui est très immersive, hein, que ce soit des relevés photographiques, des notes, des réflexions écrites. D'ailleurs, vous nous partagez toutes ces informations glanées ici dans l'exposition. Ce qui est important, c'est qu'on peut décider d'aller sur place en tourisme, mais vous, c'est un autre regard que vous portez sur ces bâtiments. Quel est le regard que vous posez sur ces bâtiments? C'est ça qui est intéressant dans l'exposition, alors, qui est d'une grande esthétique.
Oui, c'est ça, je dirais. Mon approche est beaucoup celle... j'oserais pas dire... Des fois, j'utilise le mot anthropologue, mais en même temps, j'ai pas étudié en anthropologie, je connais pas exactement... J'utilise probablement pas les méthodes exactes scientifiques de l'anthropologue, mais mon regard est beaucoup proche de celui des sciences sociales. Donc, c'est quelque chose qui m'interpelle énormément, que je croise beaucoup avec l'univers du design, de l'architecture, même du sensoriel, comme les odeurs, le visuel, évidemment. Donc, c'est comme un enchevêtrement de plusieurs disciplines qui dialoguent ensemble dans la galerie pour créer... Faut aussi le mentionner, les colonies marines ont été développées spécialement sur le bord du littoral, donc face à la mer, en raison de leur origine, donc l'aspect curatif des colonies marines. séjour à la mer pour les enfants avec l'héliothérapie, donc la thérapie par le soleil, qui était censée, à l'époque, selon les croyances, guérir la tuberculose. Donc, ce lieu stratégique, donc près de la mer, fait des colonies un lieu
maintenant très prisé par le tourisme.
Exactement. Et les colonies marines sont devenues aussi elles-mêmes des développements, si on veut, un outil de développement urbain. Autour des colonies, la ville s'est développée, tandis que, a priori, c'était censé être des séjours pour les enfants malades à l'extérieur des cités industrielles pour éviter la toxicité des villes. Donc, finalement, aujourd'hui, les colonies se retrouvent face à des problèmes, ou disons, j'oserais pas dire davantage, des enjeux face à la privatisation des plages qui fait que ça crée de l'exclusion. Il faut payer pour avoir accès à la mer. Également, la difficulté de maintenir ces bâtiments qui sont de grandeur monumentale. Donc, c'est pas toutes les localités qui ont ni les ressources financières, humaines, pour pouvoir maintenir ces énormes carcasses bétonnées. Donc, ces différents enjeux-là aussi, le tourisme balnéaire laisse, pendant la saison morte, vraiment des villages délaissés avec peu de services pour les gens qui habitent sur place. Donc, ça soulève quand même des enjeux liés au territoire naturel, liés à la ville aussi. Donc, c'est beaucoup ça qui m'a intéressée à travers le travail.
Sujet d'étude absolument fascinant. Peut-être nous parler de ce qui vous intéresse particulièrement dans la photographie de ces bâtiments et l'étude de ces bâtiments.
Oui, donc
l'architecture, en tout cas.
L'architecture
d'époque.
L'architecture d'époque, justement dans l'ère fasciste, c'est un sujet d'étude qui m'a beaucoup interpellée pour plusieurs raisons, ouais. Mais aussi avant l'ère fasciste, comme quoi certains éléments architecturaux ont commencé à devenir, si on veut, à être au service de la fonction initiale du bâtiment. Donc, le hublot était utilisé pour créer de l'aération dans le bâtiment parce que la tuberculose était une maladie pulmonaire. Donc, c'était très important pour les enfants malades d'avoir cette espèce de circulation d'air pour éviter la propagation de la tuberculose. Même chose, les hublots permettaient la pénétration du soleil à l'intérieur du bâtiment. Aussi, l'utilisation des escaliers, c'est juste des petits éléments comme ça où j'ai porté une attention vraiment particulière avec Mussolini, sous le règne de Mussolini. L'escalier avait une fonction symbolique et même...
qu'on pouvait peut-être librement associer à l'ascension, la doctrine ou le pouvoir.
Exactement, et spécialement le bureau des directeurs, souvent dans les colonies, était situé en haut des colonies. Et les colonies, c'est des bâtiments, comme je l'ai mentionné plus tôt, c'est monumental. C'est une grandeur qui est hors d'échelle. C'est immense. Donc, souvent, les directeurs leur bureau était spécialement situé en haut pour avoir un impact aussi dans l'ascension des escaliers, un impact autant psychologique chez les utilisateurs et les enfants.
En imposant une autorité élevée ou un...
Tout à fait. Donc, puis même quelque chose qui s'inscrit au-delà de la...
Une autorité surélevée.
Oui, puis même au-delà de la psyché collective, il y avait aussi quelque chose dans le corps. Donc, quand tu montes l'escalier, il y avait aussi un geste solennel dans la manière de monter l'escalier. Donc, c'est des éléments comme ça aussi que j'ai pris la décision de sélectionner pour... utiliser comme élément de composition de mon installation.
Tout à fait. Vous avez fait le choix, donc, vraiment de nous montrer des éléments architecturaux significatifs. Alors, si on les explore, il y a des couleurs éclatantes. Alors, écoutez, ça fait rêver. Une époque plus ou moins inspirante, peut-être pour les gens qui devaient la vivre ou la subir. Mais vous avez aussi opté pour vraiment mettre en scène les bâtiments. Hein? Il n'y a pas d'humain dans votre vidéo, dans vos photos. Hein?
Non, en effet.
C'est vraiment, ce sont les bâtiments mythiques qui sont mis en scène.
Oui, tout à fait. Puis j'ai aussi opté pour...
Avec les éléments naturels.
pour une approche peut-être un peu plus analytique aussi du territoire. Donc, et sincèrement, la présence d'êtres humains, comme j'étais, c'est vraiment... bon, peut-être une anecdote, ce que je vais raconter.
C'est pas nécessaire, la présence d'êtres humains. On la ressent à travers le bâtiment.
Oui, c'est ça, dans l'usage, dans les usages. Mais aussi, comme j'étais de manière anecdotique dans la saison morte, quand je documentais ces bâtiments-là, il y avait peu d'êtres humains. C'est aussi simple que ça. Il y avait peu d'êtres humains sur le...
Mais ça a tout un impact, moi.
Oui, c'est ça. C'est sûr que voir des êtres humains, comme dans la vidéo, on en voit quelques-uns.
Un petit peu, oui.
Oui. Et ça permet de voir l'échelle de ces bâtiments. Donc ça, je trouvais ça important aussi qu'on puisse sentir cette échelle qui est plus grande que nature.
Vous parlez justement de votre approche qui est de justement suggérer, de nous permettre d'entrevoir des traces d'activité humaine ou de présence humaine. Hein? C'est vraiment votre approche dans le cadre de cette exposition, du moins?
Oui, tout à fait. Donc,
et même peut-être même dans le cadre de plusieurs expositions?
Oui, je crois aussi c'est comme mon regard... est plutôt axé vers l'architecture, mais en même temps, tous les enjeux sociaux autour de ça m'interpellent énormément. Donc, oui, en fait, c'est
les
peut-être...
Les objets, les décors, l'architecture peut aussi suggérer effectivement l'activité de la présence humaine.
Oui, c'est ça. Puis on peut le voir aussi dans certaines images quand on rentre dans la galerie, donc des éléments laissés par les humains. Donc oui, ça en fait partie de manière indéniable parce que les architectures n'existeraient pas sans les humains. Donc.
Absolument. Vous avez étudié 3 bâtiments et vous avez fait un séjour dans un de ces 3 bâtiments.
Bien, en fait, j'ai étudié plusieurs bâtiments. Donc, parce que sur la côte adriatique et sur la côte près de la mer Méditerranée, souvent les bâtiments, les colonies sont regroupées l'une près de l'autre.
Donc, il y en avait en grand nombre.
Il y en avait en très grand nombre. Mais là où j'ai décidé de focaliser, spécialement pour la vidéo, c'est les colonies qui sont encore actives, donc qui ont une fonction dans l'actualité.
Et vous avez séjourné dans un de ces 3 bâtiments.
Oui, tout à fait. La colonie Rosa Maltoni Mussolini. Donc, dans cette colonie-là, j'ai eu la chance de louer un appartement et ça me permettait aussi d'enfin avoir accès à l'intérieur d'une colonie parce que dans l'exposition, c'est surtout des vues de l'extérieur. Ouais. C'était difficile d'avoir accès à l'intérieur des colonies. Et il y a plusieurs anecdotes aussi qui viennent avec et qui font partie aussi du travail vidéographique parce que dans le travail vidéographique, il y a des narrations.
Donc, on va, de toute façon, il y aura bien des anecdotes à raconter sur votre séjour. Semble-t-il qu'il était très intense dans cette colonie. Mais on va peut-être parler plus de l'exposition ici qui est devant nous parce que, oui, on a l'œuvre centrale, bien sûr, et le vidéo. On a des photos vraiment très évocatrices et accompagnées de textes. Tu nous présentes votre sélection de textes?
Oui, c'est ça, en fait. Moi, c'est la première fois que j'explore le textuel dans ma pratique artistique. Donc, je trouvais ça intéressant aussi d'amener l'aspect recherche sous d'autres formes que celles visuelles ou sonores, mais avec un récit plus textuel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai réuni des informations, en fait, qui proviennent de recherches que j'ai pu effectuer dans diverses institutions, bibliothèques, à Rome et en Italie aussi. Et cette information-là, je la vois un peu comme un texte d'accompagnement ou comme même, à la limite, une œuvre dans une œuvre, parce qu'il y a même un concept aussi avec la micro-publication. Donc, je le vois comme un livre d'artiste avec qui parle des 3 phases des colonies marines que j'ai expliqué un petit peu plus tôt en introduction.
Publication absolument charmante, une publication de chevet.
Oui, c'est ça. Donc, pour moi, c'est de l'information.
Ce sont des petits livrets vraiment charmants avec des photographies de l'exposition.
Oui.
Accompagnés de textes, des réflexions.
C'est ça. Et le texte, c'est comme je mentionnais, c'est vraiment la réunion de différentes recherches que j'ai pu faire à travers mon séjour en résidence pendant 6 mois au studio du Québec à Rome.
Et vous avez aussi intégré de vos propres réflexions dans ces textes?
Dans les textes, ben c'est
les textes du vidéo.
Oui, c'est ça. Oui, donc le vidéo, il y a des narrations également, donc autre texte, à l'intérieur duquel j'ai intégré mes propres expériences aussi à travers les colonies. Et c'est aussi l'aspect non chronologique, je trouvais bien intéressante aussi de fonctionner de cette manière-là. C'est-à-dire que la voix du narrateur, parfois, on ne sait pas qui fait la narration ou de qui vit une expérience dans la colonie. Est-ce que c'est un enfant qui a la tuberculose en 1867? Est-ce que c'est un enfant qui est dans un camp fasciste en 1929? Ou bien c'est moi actuellement en 2018 qui est en train de vivre une expérience dans une colonie marine? Donc, tout cet enchevêtrement de narration, ça permet aussi d'actualiser les colonies marines, de les rendre vraiment, de les ancrer dans une actualité à travers des réflexions liées au tourisme, liées à la
maintenance. C'est un aspect intéressant. Alors, vraiment, cette vidéo-là, ça permet de vivre une expérience du vidéo encore plus immersive, qu'il n'y ait pas ce temps, ces dates transmises. Ça nous permet vraiment de laisser tomber les points de repère pour vivre encore plus l'expérience immersive que vous proposez. Et vous avez donc vraiment opté pour le vidéo, créer un espace intime à l'intérieur de l'exposition. Vraiment, c'est très apprécié. Et il y a quand même quelques autres expériences que vous proposez autour du vidéo, si vous me les présentiez.
Oui, c'est ça. Il y a, évidemment, j'aurais pu...
Ou peut-être avant, nous parler de la musique. Est-ce que c'est vous qui avez composé cette musique?
Oui.
Il y a eu de la collaboration?
Dans l'exposition, il y a eu beaucoup de collaboration en termes de... j'ai travaillé avec Nina Dubois, qui est artiste en arts visuels aussi, et qui fait de la soudure, donc elle m'a aidée à mettre en vie mes pièces sculpturales au centre de l'exposition. J'ai travaillé aussi avec une designer graphique pour la conception du livre d'artiste. J'ai travaillé aussi avec quelqu'un, une autre artiste, Jacinthe Lessard-Elle, que vous connaissez peut-être.
Oui, tout à fait.
Et elle vous savez, les artistes, on porte souvent plusieurs chapeaux, et Jacinthe, elle a développé un très fort intérêt pour les huiles essentielles. Donc, j'ai travaillé avec elle...
C'est bien le clou de l'exposition en entrant, oui.
Donc, j'ai travaillé avec elle pour développer une odeur singulière, en fait, qui est l'odeur que j'essayais de reproduire du bord du littoral italien. Alors, c'était tout un exercice d'essayer d'identifier avec les mots ce qu'on peut ressentir en termes d'odeur sur le bord de la plage, dans un environnement qui est plutôt isolé, qui est assez, évidemment, naturel, sauvage, avec l'air salin, donc des odeurs iodées, tout ça. Alors, avec Jacinthe, on a concocté différentes compositions avec des huiles essentielles pour arriver, en fait, à une diffusion olfactive qui représente l'air marin en Italie.
Une exposition, donc, qui nous transporte dans l'univers des colonies de vacances en Italie, vraiment avec différents éléments, hein, photos, expériences olfactives, vidéos, musique envoûtante. Est-ce que c'est vous qui l'avez composée?
Oui, la musique, je suis un brin musicienne, mais sans complètement l'assumer au sens que je n'ai pas de formation en musique.
Vous êtes définitivement plusieurs cordes à votre arc.
Oui, mais c'est ça. En fait, je pense que j'aime bien explorer différents médiums, que ce soit la sculpture, la vidéo, le son. Et c'est quelque chose pour moi, le mélange des médiums, comment ça peut dialoguer ensemble au sein de l'installation, c'est quelque chose qui est toujours important dans mon travail artistique. Donc,
tout ici pour interpeller nos sens. Une présentation d'architecture très inspirée. Merci, Virginie Lagagnère. Une exposition, quand même, qu'on peut visiter encore quelques jours. C'est jusqu'à quelle date, Optica, cette exposition?
C'est jusqu'au 15 décembre, 17h. Donc, vous êtes les bienvenus.
C'est un plaisir de m'entretenir avec Virginie Lagagnère. Une recommandation du magazine Radio-Unité Tout. Merci.
Merci.